Immobilier, le prêt longue durée de Banque Atlantique pour acquérir, construire ou rénover votre logement à taux exceptionnel vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous avoir rejoints ce matin pour parler du calendrier électoral en République démocratique du Congo. Il a été annoncé il y a quelques jours, maintenant la principale date à retenir, c'est le 20 décembre 2023, jour prévu pour la présidentielle, les législatives et les provinciales. L'enrôlement des électeurs est censé commencer dès le mois prochain, fin décembre. Que pensez-vous de ce calendrier ? Partagez-vous les réserves de certains partis politiques ? On a envie de vous entendre. Il vous reste une demi-heure pour nous appeler ou nous écrire si vous voulez participer au débat. Et d'ici là, comme chaque jour, nous répondons à vos questions sur l'actualité. Direction Ngaoundéré au Cameroun. Bonjour Hadji.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale.
Vous vouliez nous parler de football ?
C'est ça.
On vous écoute.
Merci. À la veille de son match contre la Serbie, le gardien titulaire des Lions Indomptables du Cameroun, André Onana, a été écarté de la sélection. Alors, j'aimerais comprendre, Anne, comment expliquer un départ aussi brusque en pleine compétition ?
L'un de nos envoyés spéciaux au Qatar va vous répondre, Hadji. Bonjour Frédéric Suto.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
André Onana a quitté Doha finalement après une journée de flou et puis une décision qui avait beaucoup surpris lundi.
Et comment, hein, des 32 équipes présentes ici, il est le seul à avoir quitté précipitamment, non pas pour blessure, mais pour raisons disciplinaires, le Mondial et le Qatar. Il a pris la direction hier après-midi de l'aéroport. André Onana, écarté de la sélection. Alors effectivement, c'est lundi matin du match contre la Serbie, que la nouvelle est tombé. Rigobert Song, le sélectionneur, a décidé de faire confiance à Davis et Passy dans les buts pour ce match face aux Serbes. Il l'avait annoncé aux joueurs la veille au soir. Qu'est-ce qu'il reproche Rigobert Song à André Onana? C'est d'être sorti un petit peu de son rôle, hein, en ayant remis en cause ses choix à lui. Il faut se souvenir de ce premier match contre la Suisse, perdu par le Cameroun, hein, l'entrée en matière dans le Mondial. André Onana était dans les buts, défaite 1-0. Et on se souvient, et on l'avait dit pendant le commentaire, les 20 dernières minutes du match, on voyait André Onana qui sortait de sa surface de réparation. Il était à 40 mètres de ses buts, il faisait des signes aux autres joueurs. Et visiblement, ça ne lui plaisait pas la façon dont les Camerounais s'exprimaient sur le terrain, ne prenaient pas assez de risques. Il faut dire que c'est un joueur de caractère, et on peut imaginer, eh bien, que ce discours-là, après la défaite, il a continué à le tenir dans les vestiaires. Il y a eu les entraînements ensuite. Alors, il y aurait eu, nous dit-on, un ballon mal dégagé à l'entraînement. Il aurait montré toute son exaspération envers Rigobert Song. Il a voulu montrer, Rigobert Song, qui a disputé 4 Coupes du Monde en tant que joueur et aujourd'hui sélectionneur, eh bien, que c'était lui le patron, plus encore peut-être que Samuel Eto'o, le président de la fédération, car Samuel Eto'o et André Onana, a priori, s'entendent plutôt bien. Et donc, il a tapé du poing sur la table. Il a écarté André Onana, qui est pourtant l'un des meilleurs gardiens du monde. Hein. Il joue à l'Inter de Milan. Les parades en Ligue des Champions, il les multiplie. Mais on a préféré se passer de lui pour la sérénité du groupe. L'équipe est plus importante que les intérêts individuel, a martelé Rigobert Song.
D'ailleurs, il avait reconnu, hein, lui-même qu'il prenait un gros risque en se passant de son gardien star. Hadji, vous aviez une autre question à propos de la sélection camerounaise ?
Absolument, Anne. Que peut-on attendre du nouveau gardien pour le prochain match face au Brésil ?
Frédéric Suto.
Davis et Passy, il a été lancé dans le grand bain face à la Serbie, hein, déjà. Alors, il a fait son match, comme on dit. Il n'a pas été ridicule, loin de là, mais score final 3 buts partout. Et quand on regarde les trois buts marqués par les Serbes, le deuxième notamment, bon, il n'est pas complètement responsable, mais on peut se dire qu'un André Onana, sur le même type d'action, lui aurait peut-être sorti le ballon. Hein. Ça nous fait penser, dans les années 80, si le Cameroun a été si fort, l'épopée en Coupe du Monde en 90, les Cannes remportées, c'est que vous aviez deux grands gardiens, Joseph Antoine Bell et Thomas Nkono. Bon. André Onana, on vient de le dire, c'est l'une des références à son poste au Cameroun, bien entendu, mais aussi en Europe, dans son club à l'Inter de Milan. Davy Sepassi, sa carrière, il a 29 ans, il a été formé en France, il a joué dans des clubs de seconde zone, troisième division en France, il a joué en Grèce, actuellement son club c'est l'Arabie Saoudite. Donc il n'a pas cette expérience-là internationale et vendredi, c'est le Brésil qui se profile. Ce match décisif où les Camerounais doivent non seulement l'emporter, mais par plusieurs buts d'écart, et ils ne sont même pas sûrs, en cas de succès, de se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc il faudra faire de toute façon un match exceptionnel dans les buts pour contrer toutes les offensives brésiliennes, même si Neymar, le Brésilien, n'est pas là et qu'il est toujours blessé. Davy Sepassi va devoir sortir le match de sa vie.
Et donc, ça sera quand même pas facile face au Brésil.
C'est vrai que de l'extérieur, c'est assez incompréhensible. C'est assez incompréhensible, cette décision de Rigobert Song.
Merci beaucoup, Frédéric Suteau, en direct de Doha, où la Tunisie jouera, elle, aujourd'hui pour une place en huitième. Là aussi, ça sera difficile. La seule option, c'est de battre la France, qui est déjà qualifiée. Et cette rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur nos antennes africaines, avec aux commentaires Antoine Grenier et Eric Mamrut à partir de 15h, temps universel. On va quand même saluer, avant de passer à autre chose, le grand moment du Sénégal hier, les Lions qui ont réussi à arracher la victoire face à l'Équateur, 2-1 et une qualification pour les huitièmes. Ça fait 20 ans que cela n'était pas arrivé. On aura l'occasion d'en reparler à la fin de la semaine puisque toute l'équipe vous propose une émission spéciale Coupe du Monde avec nos envoyés spéciaux au Qatar ce vendredi. Pour l'heure, 9h17 à Bagassola, David nous attend au standard. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI.
Quelle est votre question?
Oui, madame, dans la prison de Korotoro, c'est ouvert. Le projet de 401 manifestants arrêtés lors du jeudi noir. Madame, pourquoi l'ordre des avocats a déjà annoncé ne pas participer au procès?
Pour vous répondre, nous sommes en ligne avec maître Frédéric Dainone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la commission des droits de l'homme du barreau de N'Djamena. Le jeudi noir, c'est le triste surnom du 20 octobre, journée de mobilisation contre la prolongation de la transition au Tchad. La répression a été brutale, inédite, entre 50 et 150 morts, plus de 150 disparus et des centaines de personnes arrêtées et conduites donc dans cette prison de Korotoro dont nous parlait David. C'est là que le procès de 401 manifestants a commencé hier, mais sans leurs avocats. Pourquoi sans les avocats?
Alors, après une assemblée générale qui s'est tenue il y a de cela quelques jours, l'Ordre des avocats du Tchad a décidé de ne pas participer à ce procès pour la simple raison que nous avons estimé que les autorités, en voulant organiser ce procès, dans les conditions qui se présentent aujourd'hui, ont violé complètement les textes de la République. Il y a eu une violation flagrante du code de procédure civile sur tous ces aspects d'ailleurs, les aspects qui garantissent le droit à un procès juste et équitable. Et nous avons estimé dans ces conditions-là qu'il ne s'agissait pas d'un procès, mais qu'il s'agit d'une mascarade. Et qu'en participant à ce procès, nous ne ferions que donner une caution aux autorités qui, en le sachant très bien, ont décidé de violer la loi, de tenir un procès stalinien, si on peut le dire ainsi. Alors nous, les avocats, avons décidé donc de ne pas donner notre caution à cette mascarade judiciaire. Voilà pourquoi il y a eu un point de presse qui a été tenu par le Conseil de l'Ordre des avocats avant-hier pour annoncer non seulement la non-participation des avocats à cette mascarade judiciaire, mais également la suspension des activités des avocats sur l'étendue du territoire tchadien jusqu'à la fin de ce prétendu procès. Oui.
Une grève pour protester. Maître Frédéric Dainone, je crois que David avait une autre question pour vous. David ?
Oui, effectivement, madame. Est-ce que le procès pourrait quand même avoir lieu sans la présence des avocats?
C'est possible que le procès se tienne quand même, sans avocat pour les accusés?
Mais telles que les choses sont parties, apparemment les autorités veulent absolument tenir un procès. Parce que dès le départ, les autorités ont tout fait pour que les personnes arrêtées ne puissent pas avoir accès à une défense. Déjà en les déportant à Korotoro, loin des avocats et loin de toute personne pouvant les assister, cela démontre déjà que dès le départ, les autorités n'avaient pas l'intention de permettre à ces personnes-là de se faire assister, de se faire défendre. Donc, à notre avis, nous pensons que le procès va quand même se tenir malgré les irrégularités, malgré les illégalités constatées et qui sont de façon flagrante. D'ailleurs, nous n'avons pas encore eu les dernières nouvelles de Korotoro parce que Korotoro est une zone isolée des voies de communication et des voies de télécommunication. Normalement, le procès devrait s'ouvrir hier puisque le rôle des audiences est sorti le vendredi. Affiché par le procureur de la République. Normalement, donc, le procès devrait s'ouvrir hier. Et normalement, ce procès va se tenir malgré la violation des lois et malgré même, la violation des droits de la défense.
Et en l'absence, donc, des avocats, plusieurs ONG partagent vos craintes et évoquent les risques d'un procès qui ne serait pas du tout équitable. Merci beaucoup, Maître Frédéric Daïnoné, d'avoir répondu aux questions de David. David, on vous souhaite une très bonne journée à Bagassola. Dans 20 minutes environ, ce sera le débat d'appel sur l'actualité. Nous attendons vos commentaires sur le calendrier électoral annoncé par la Commission en République démocratique du Congo il y a quelques jours. Et avant cela, d'autres questions sur l'actualité. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour. J'appelle depuis le Togo.
Et vous vouliez nous parler d'attaques terroristes qui ont eu lieu dans le nord du pays.
Justement, la semaine dernière, une nouvelle attaque terroriste a eu lieu au nord du Togo. Et j'ai trois questions concernant cette attaque. D'abord, comment pourrons-nous expliquer la récurrence de ces attaques dans la région depuis un an? Voilà ma première préoccupation.
Cédric, la chercheuse Janine Ella Abattan est avec nous par téléphone pour répondre à vos questions du bureau de l'Institut d'études de sécurité à Dakar. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour Cédric.
C'est la deuxième fois en quelques jours que la zone de Tivoli est le théâtre d'attaque. La semaine précédente, le gouvernement togolais avait parlé d'accrochage sans donner de détails. Et puis jeudi dernier, donc des affrontements entre des hommes armés et des militaires. Comment on peut expliquer ces attaques qui se multiplient depuis plusieurs mois maintenant?
Donc au moins trois raisons peuvent expliquer cette situation. D'abord, la multiplication de ces attaques dans la région des savanes du Togo peut répondre à une stratégie des groupes extrémistes violents qui ciblent le Togo, d'échapper à la pression militaire au Sahel, mais aussi d'élargir leur zone d'opération dans un contexte d'intensification des tensions entre ces groupes dans le Sahel. Et ces tensions se sont récemment intensifiées au nord-est du Mali. Ensuite, elles pourraient aussi répondre à des représailles aux opérations militaires menées par le Togo à l'intérieur de ses frontières de manière bilatérale avec certains pays comme le Burkina, mais aussi dans le cadre de réponses régionales telles que l'initiative d'Accra et aussi répondre à une volonté de ces groupes de maintenir la pression sur le Togo de sorte à fragiliser la présence étatique dans la région des savanes et aussi de maintenir la psychose. Et enfin, elle pourrait être une tentative de ces groupes pour protéger ou ouvrir des voies d'approvisionnement en moyens logistiques et opérationnels tels que les motos et le carburant dont ces groupes ont besoin pour opérer, qui pourraient avoir été bloqués suite au renforcement militaire dans la région des savanes depuis 2021.
Cédric, je crois que vous aviez une question justement à propos de l'initiative d'Accra dont parlait Janine Ella Abattan il y a quelques instants.
Oui, justement. Cette initiative qui rassemble cinq pays dans le Togo dont nous sommes en train de parler, et dans la lutte contre le terrorisme, est-ce que cette initiative pourrait vraiment être renforcée?
Où en est-on de ce côté, Janine Ella Abattan?
Donc très rapidement, les pays membres sont passés à 8. Donc on a le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Burkina, le Niger, le Mali et le Nigeria. Et pour en revenir à votre question, Cédric, ce besoin de renforcement de l'initiative d'Accra a été en quelque sorte prise en compte lors du dernier sommet des chefs d'État à Accra. L'une des décisions phares de ce sommet est la mise en place d'une force multinationale conjointe de l'initiative. On aura plus d'éléments de précision dans les semaines à venir. Par contre, une des leçons importantes qu'on peut tirer de ce sommet, c'est la volonté des chefs d'État de collaborer, mais aussi de tirer des leçons de l'expérience du Sahel en matière d'autonomie financière et de décision comme un préalable à l'efficacité de cette initiative.
Merci beaucoup Janine Ella Abatan d'avoir répondu aux questions de Cédric. Et merci Cédric de nous avoir appelés. La dernière question de la matinée nous vient de Kinshasa. Edith Divin, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à toute l'équipe d'Apercie l'actualité, aux auditeurs de la RFI et à Stéphane Lagarde qui est le bienvenu à Kinshasa.
Mais vous êtes bien renseigné puisque c'est effectivement notre correspondant en Chine qui va vous répondre. On écoute vos questions.
Merci. Les manifestations contre la politique zéro Covid s'excèdent en Chine, alors que cela fait 30 ans qu'elle n'était qu'une telle contestation n'a eu lieu. Voilà pourquoi nous avons envie de savoir quel a été l'élément déclencheur de ces manifestations. Comment expliquer que ces manifestations réunissent autant de personnes dans différentes villes?
En ligne avec nous pour vous répondre, Edith Divin, notre correspondant, j'ai dit correspondant, envoyé spécial permanent à Pékin. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Anne.
C'est une vague de contestation absolument inédite. Pourquoi maintenant ?
Alors pourquoi maintenant ? Parce qu'il y a eu un élément déclencheur, effectivement, un incendie tout à l'ouest de la Chine, à Urumqi, c'est la capitale de la région autonome du Xinjiang, donc c'est vraiment à l'extrême ouest de la Chine. C'est une région qui est souvent confinée, ça faisait plus de 110 jours que cette ville était sous des verrouillages multiples, et il y a eu un incendie, 10 morts dans cet incendie, et là, les réseaux se sont embrasés, pardonnez-moi de faire le lien, mais c'est vraiment, ça a été une étincelle, et la colère a explosé, notamment à Urumqi, évidemment, les habitants sont sortis dans la rue pour dire que ces mesures restrictions sanitaires empêchaient les secours d'arriver vite. Ça a été démenti par les autorités, ça a été démenti par le gouvernement central, mais c'est, toujours est-il que c'est parti dans tout le pays, notamment dans les universités, les jeunes ont été très touchés notamment. Et ce qui, vous savez, c'est une région avec une minorité ouïghour, le Xinjiang, et tout le monde a été touché par l'histoire de cette famille, les personnes qui ont disparu, notamment les familles qui ont été touchées. Et donc, dans les universités, on a vu apparaître des feuilles blanches. Les gens tenaient des feuilles blanches, comme en Russie, pour dire on ne peut pas s'exprimer, mais on témoigne notre solidarité avec ces gens-là. Donc, c'est un événement déclencheur, mais on voit que la colère était là, présente contre ces restrictions Covid, parce qu'il y a, depuis des mois maintenant, des incidents qui arrivent. Il y a eu des morts dans un bus il y a encore quelques mois. Aussi en raison de ces déplacements de personnes, notamment dans les centres de quarantaine. Donc les slogans étaient simplement le virus tue moins finalement que les mesures sanitaires.
Edith Divin, vous aviez une autre question pour Stéphane Lagarde à propos de ces mobilisations en Chine.
Oui, la dernière. Le gouvernement chinois pourra-t-il alléger sa politique zéro Covid à la suite de ces mobilisations ?
Stéphane, a priori le gouvernement n'a pas vraiment laissé la porte ouverte à quoi que ce soit, mais est-ce qu'on peut s'attendre à un changement quelconque dans les prochains jours ou les prochaines semaines ?
Alors politiquement, non, il n'y a pas de changement. On réaffirme que la politique zéro Covid, puisque c'est une marque du président chinois, doit continuer. Mais dans les faits, il y a des aménagements. Par exemple, ils ont redit, il y a des mesures qui ont été sorties par le Conseil d'État, par la commission de prévention et de contrôle des épidémies, disant qu'il ne faut plus mettre de barres aux portes, ne plus attacher les portes. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça qu'on ne devait plus mettre en confinement, des cas contacts de cas contacts. Après, est-ce que c'est respecté ? Pas forcément, puisque dans les provinces, même dans les résidences, les gens ont toujours peur d'avoir des cas et surtout de se faire punir pour avoir des cas, puisque ça a été le cas pendant 3 ans. Donc c'est difficile. Et deuxième aussi difficulté, c'est qu'on a seulement 70% des plus de 80 ans qui sont vaccinés. C'est pas assez. Donc il faut relancer la campagne de vaccination qui commence en ce moment. Juste une chose pour votre auditeur, c'est vrai que c'est pour nous, en tout cas, qui sommes des observateurs de la Chine depuis longtemps, on n'avait jamais vu ça. Ce sont des manifestations simultanées partout en Chine qui aujourd'hui sont réprimées. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très important et une colère. Moi, j'avais jamais entendu parler des gens comme ça. Par exemple, la nuit des manifestations à Pékin, j'avais jamais entendu des Chinois me dire des choses comme ça, très politiques.
Est-ce qu'on peut s'attendre, vu ce que vous nous décrivez, qui est totalement inédit, à ce que certains Chinois essayent de s'affranchir de certaines règles ?
Ah ben, c'est déjà le cas. Hein. Là, on voit vraiment. Moi, là, je vous donne une anecdote. Mais l'autre fois, chez un coiffeur à Shanghai, la personne qui était en train de se faire coiffer a dit :« Vous servez à rien ici. Sortez. Nous voulons vivre normalement. Il y a des gens, je vois, qui passent les barrières. Donc, effectivement. Moi j'ai vu aussi samedi dernier par exemple des gens tout à fait normaux, pas des militants ou des personnes même âgées qui disaient on ne veut plus, ils allaient voir leur comité de résidence en disant on veut sortir, on ne veut plus être confiné.
D'accord, donc on sent quand même effectivement que la colère s'exprime par différents moyens. Merci beaucoup Stéphane Lagarde d'avoir été en direct de Pékin. Et je rappelle à nos auditeurs que l'on peut retrouver, réécouter vos reportages sur notre site internet rfi.fr et sur l'appli RFI Pure Radio. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 10 minutes maintenant pour le débat. Appelez-nous pour nous dire ce que vous pensez du calendrier électoral en République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous ? On en parle juste après les dernières informations africaines. À tout de suite.